Et si elle le faisait, si l'Argentine faisait un incroyable back-to-back 2022-2026, dans quel état de forme est Lionel Messi peut-il porter la sélection? C'est parti pour l'After Coupe du Monde spécial Argentine.
RMC, After Coupe du Monde, les 48 équipes.
Nicolas Jamin.
Et on va disséquer ensemble, bien sûr, les forces et faiblesses du champion du monde en titre. La Coupe du Monde, elle leur appartient. La voici, celle-ci est en Lego. Ils ont l'original à la maison. Avec moi, à mes côtés, Georges Quirino Chavez, présentateur des Grandes Gueules du Sport, vous le connaissez. Surtout, quasiment franco-argentin, 5 ans sur place à Buenos Aires, sociaux de Racing Club. Salut Georges.
Salut Nico, bonjour à tous.
Heureux de te retrouver Georges pour évoquer ton autre sélection en plus de l'Espagne, en plus de la France, du Portugal.
Mais non mais attends, on était sur AMC il y a 4 ans ensemble après la victoire de l'Argentine.
Exactement.
Contre la France. C'était un jour un peu particulier, je ne vais pas le cacher. Hein,
tu l'as vécu sur place.
J'ai vécu sur place, effectivement, les larmes, la longue séance de tir au but pour les Argentins finalement qui a été réussie.
Et lui est l'un des plus français des Argentins. Tu l'as connu à Buenos Aires, tu as été son supporter quand il jouait à Nice notamment. Il a joué à Lille, il a joué à Marseille, directeur sportif d'un club de division 1 argentine, Defensa y Justicia. Renato Civili est avec nous. Salut Renato.
Salut, comment allez-vous?
On est heureux de t'avoir avec nous, Renato, depuis Buenos Aires. Alors, la sélection, ta sélection, on va en parler bien sûr. Regardez, petit rappel historique, c'est quoi l'Argentine sur le plan international? C'est 3 Coupes du Monde. La dernière en 2022, puis 86, Maradona, puis 78 également. 16 Copa América, tout simplement. 2 Jeux Olympiques, on les a mis également. 2 médailles d'or, bien sûr. Voilà pour l'Argentine qu'on ne présente plus, bien sûr, mastodonte. Un des favoris de la Coupe du Monde. On va parler de son ambition, bien sûr. Campagne de qualification. Et là, je vais vous entendre, Georges et Renato, survoler. Avec beaucoup d'avance sur les poursuivants qui étaient, eux, extrêmement denses. Premier de la zone M-Sud, loin devant tout le monde, plus 9 points sur l'Équateur, deuxième. Mission accomplie. Que faut-il retenir, Georges, du travail de Scaloni sur la campagne de qualification?
Ils sont dans la continuité un petit peu de ce qu'ils ont fait sur la dernière Coupe du Monde. On rappelle, sur la qualification, la dernière fois, ils avaient terminé invaincus. Hein. Ils n'avaient pas perdu un match en arrivant au Qatar. Là, cette fois-ci, ils ont perdu 4 rencontres. Il y a eu des matchs quand même un peu plus compliqués, notamment face à l'Équateur, notamment face à la Colombie, mais il y a eu des matchs qui commencent quand même un petit peu à dater, il faut le dire, mais il y a eu des matchs joués sans Messi notamment qui ont été impactants. Voilà, moi je pense à notamment une victoire face au Brésil, c'était à Buenos Aires, au Monumental, avec notamment un immense Thiago Almada, une victoire également en Uruguay avec l'ancien Lyonnais qui avait été réussi. Donc voilà, une équipe d'Argentine qui a pas été inquiétée dans cette qualif, assez sereine, toujours avec les mêmes joueurs, à part Di Maria qui sur la fin de la qualif a disparu parce qu'il est parti après la victoire en Copa América. Mais globalement, on va dire une qualif assez tranquille avec des cadres qui n'ont pas beaucoup bougé.
Alors regardez le calendrier qui attend l'Argentine pour cette Coupe du Monde, les 3 matchs, 17 juin, Argentine-Algérie, 3h du matin, Kansas City, heure française. 5 jours plus tard, l'Autriche, 19h à Dallas, heure française aussi, et Argentine-Jordanie, 4h à Dallas. Renato, sincèrement, quand on parle d'Argentine, bien sûr, champion du monde en titre, c'est 9 points, forcément, 3 matchs, 3 victoires attendues pour toi. On se rappelle du démarrage très compliqué en 2022, la défaite face à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'elle sera prête dès le 17 juin, cette sélection, selon toi?
Écoutez, hier, l'Algérie vient de battre PUA.
Ouais.
Et forcément, ils sont pas, ça manque de respect à personne, ils ne sont pas des grandes nations de football. Et a priori, on devrait finir les premiers de la poule. Le problème, c'est que de suite après, très compliqué en 16e de finale pour l'Argentine. Très, très compliqué.
C'est ça, il faut sortir en tête, hein, Georges, absolument pour l'Argentine. Hein. Sinon, le parcours va être très piégeux.
Oui, parce que s'il termine deuxième de ce groupe, il pourra affronter l'Espagne. Si jamais les Espagnols terminent leader de leur groupe, donc ça pourrait se terminer très vite. Alors, Renato est optimiste, mais alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne sens pas dans le pays, actuellement non plus, une grande vague d'optimisme comme on a pu le vivre avant la Coupe du Monde au Qatar. Parce que c'est peut-être aussi que les Argentins se sont habitués à gagner, donc maintenant ils sont peut-être un petit peu plus exigeants avec cette sélection. On l'a vu par exemple sur les derniers matchs amicaux contre la Mauritanie, notamment la Bombonera, seulement gagné 2-1, l'intensité était zéro. Dibu Martinez a eu des mots publics pour dire si on y va à la Coupe du Monde comme ça, ça sert à rien. On rappelle que pendant toute cette campagne, pendant ces 4 ans, ils n'ont pas affronté une seule équipe européenne. Mmh. Hein, ça fait partie aussi des choses qui nous permettent de dire que on va dire dans la préparation,
l'équipe affrontée européenne, c'est la France.
Bah exactement. Alors qu'avant la dernière Coupe du Monde, souvenez-vous, ils avaient affronté lors de la finalissima l'Italie à Wembley. Ils avaient gagné, ça avait impacté le monde entier. Et c'est vrai que là, il n'y a pas eu ce match contre l'Espagne qu'il y aurait dû y avoir au Qatar, la finalissima. Sauf que avec le conflit au Moyen-Orient, il n'a pas eu lieu. Il n'a pas été remplacé par une rencontre face à une équipe européenne. Donc il y a cette idée quand même de qui est-ce qu'on a vraiment affronté. Est-ce que la faim, l'hambre, voilà, la faim, ce qu'on a dans le ventre, est encore le même? Est-ce que Messi a encore la même énergie? Il y a quand même beaucoup de questions, d'autant plus que cette équipe argentine n'a pas forcément été énormément réoxygénée comme l'a fait par exemple l'équipe de France.
Ces questions, on va bien sûr les évoquer. Il suffit de regarder la liste des 26, regarder celle décidée par Scaloni, Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine. Très peu de nouveaux en Coupe du Monde. Il n'y a pas que des nouveaux en sélection, mais dans ce groupe-là, 19 des 26, c'est ça, étaient au Qatar en 2022.
Oui, enfin 17,
non,
effectivement.
17.
On peut rajouter, oui, mais en fait, on peut rajouter Giovanni Lo Celso qui et Nicolas González, qui avait été forfait juste avant la Coupe du Monde, mais qui, même dans l'esprit des Argentins, faisait partie, et de Lionel Scaloni, faisait partie de l'aventure au Qatar. Donc voilà.
Les nouveaux, c'est Juan Musso, gardien, Leonardo Balerdi, bien sûr, Facundo Medina, je dis pour ceux qui nous écoutent aussi, Giovanni Lo Celso, Valentin Barco, bien sûr, Nico Paz, Nico González.
Ouais, qui était déjà dans l'aventure quand même la dernière fois, mais qui a été blessé juste avant.
Giuliano Simeone et José Manuel López.
Hein, attaquant de Palmeiras.
De Palmeiras, exactement. Est-ce inquiétant ou pas ce non-renouvellement d'effectifs de groupe Renato, ou est-ce que c'est plutôt un avantage pour Scaloni, justement, de compter quasiment sur les mêmes hommes qu'en 2022 qui ont été sacrés?
Après, c'est compliqué de renouveler une équipe championne du monde, non?
Et oui.
Moi, je pense que Di Maria, il aurait pu être, c'est vrai qu'il est un peu sur la fin, égal que Lionel et que Nico Tamendi, mais après tout, bien sûr, ils ont 4 ans de plus, mais c'est des joueurs, Nico, il a été titulaire, capitaine dans son équipe, et dans son championnat européen, c'est pas top niveau les championnats portugais, mais quand même, et c'est vrai que moi, c'est pas qui m'inquiète, mais j'ai des doutes, c'est si Messi, avec la qualité du championnat qu'il joue aujourd'hui, il va être au même niveau qu'il a été la dernière Coupe du Monde, que personnellement, je croyais qu'on n'était pas favori. Je croyais que Messi n'arrivait pas dans son meilleur moment parce que les prestations du Paris Saint-Germain à l'époque, ils n'étaient pas énormes. Et finalement, Lionel Messi fait un championnat du monde de rêve à 34 ans. Et on verra. Moi, je pense que l'interrogant, il est là. Voir combien de minutes Lionel va pouvoir jouer, parce que dans sa tête, on sait bien que il n'aime pas sortir. Il n'aime pas sortir, il veut jouer toujours les 90 minutes. Et je pense que ça ne va pas être facile à gérer.
Il a 39 ans, Messi. Il aura 40 ans pendant cette Coupe du Monde. C'est important, c'est le 24 juin. C'est bien ça, hein?
Non, il aura 39
ans le 24 juin.
Ça, c'est Cristiano Ronaldo, je crois que tu confonds.
Tout à fait. Alors, quel sera le niveau 4 ans après? Bien sûr, c'est la grande question. Toi, tu l'as vu jouer, Renato aussi, sur quelques matchs de prépa. Il a bien géré cette saison-là. Il a été, tu l'as dit, préservé. Il n'était pas tous les déplacements avec la sélection.
Oui, parce qu'il a été blessé aussi.
Il a été blessé aussi. Déjà, la question, il a laissé plein d'un doute sa participation parfois. Jusque tard dans la saison, est-ce que je vais la faire ou pas? Il ne savait pas réellement. La question, Renato l'a soulevée, c'est quel degré de motivation, d'investissement, d'énergie, d'envie il a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit?
Mais déjà, il y a une donnée importante, c'est qu'on dit qu'il a été préservé. C'est vrai qu'il n'a pas joué tous les matchs des éliminatoires, mais il termine quand même meilleur buteur des éliminatoires pour l'Argentine avec 8 buts, comme Julian Alvarez. Alors, il est quand même toujours décisif pour cette équipe. Dans quelle forme il est? Alors, il a eu un petit problème musculaire là, pour son dernier match avec l'Inter Miami, donc on ne le verra pas en amical avant la Coupe du Monde. Donc, le moment de vérité, ça va être face à l'Algérie très certainement, dans des conditions, on le sait, pendant cette Coupe du Monde, qui vont être très chaudes, hein, donc avec un match en plus sur le Mondial. C'est des conversations qu'il y a en Argentine aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va gérer Messi? Comment est-ce que Scaloni va le gérer? On sait que dans le discours, Scaloni a énormément de respect pour le numéro 10. Il a déjà dit, ce n'est pas moi qui déciderai quand il va arrêter.
Ah, voilà, ça, c'est
lui qui décidera. C'est lui qui décidera.
Quand il va arrêter quoi? Sa carrière internationale?
Sa carrière internationale.
D'accord, pas de sortir
après,
du terrain.
Après, sur le terrain, voilà, Scaloni a, on va dire, confiance, je pense, dans la bonne intelligence de Messi. On a vu, je ne sais pas, par exemple, sur la finale de la Copa América remportée face à la Colombie, Messi, il se blesse, il sort. Voilà, quand il sait qu'il n'est plus au niveau, il sort, il finit en larmes. L'équipe gagne sans lui. On rappelle, hein, il y a 0-0 avant la prolongation face à la Colombie. Et c'est Lautaro Martinez qui donne le but final. La forme actuelle de Messi, franchement, je pense que... Alors, Renato peut-être confirmer ça, mais il y a quand même un truc, c'est que les Argentins ne regardent pas les matchs de l'Inter Miami. C'est pas comme à l'époque où les matchs du Barça.
La MLS s'intéresse pas.
Non, mais les matchs du Barça.
Il y a ceux du PSG ou du Barça.
Les matchs du Barça, ouais. Du PSG, dans une moindre mesure, déjà, étaient un petit peu moins suivis que les matchs du Barça. Mais les matchs de l'Inter Miami sont pas trop suivis, en tout cas, par des résumés qu'il peut y avoir sur TIC Sport, qui est le canal principal, ou ESPN. Mais là, l'état de forme véritable de Messi, il est un peu obscur.
Il y a des stats, qui valent ce qu'elles valent.
Il joue l'intégralité des matchs, mais il joue dans un championnat qui n'est pas un championnat majeur. En revanche, ce qui est dit dans le discours, c'est que Messi, comme Rodrigo De Paul, qui aujourd'hui est à l'Inter Miami avec lui, il y a ce narratif de dire « Oui, mais on s'entraîne plus en dehors, on a une préparation physique spéciale pour la Coupe du Monde, et donc on va arriver en gros... plus près que jamais. Alors je sais pas si c'est comme Renato, tu te souviens, Maradona qui s'était préparé en 94 pour la Coupe du Monde aux États-Unis, il s'était préparé dans la Pampa, il avait une préparation Koh-Lanta le mec, pour arriver à 100%. Je sais pas si ce sera pareil pour Messi, mais il y a l'idée d'une préparation spécifique pour montrer qu'il est motivé, qu'il sera là pour la Coupe du Monde.
Motivé, t'as aucun doute Renato là-dessus?
Non, bien sûr, et c'est ça que j'allais dire. Motivé, il va être motivé, c'est sa dernière Coupe du Monde. Les mecs, c'est un animal de la compétition. C'est pour ça que c'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire du foot. Mais il faut voir comment on peut gérer et sa motivation, sa envie de tout être et ses 39 ans. Parce que sortir, comme tu as dit, Georges, pour une blessure,
ça va.
Mais comment tu fais pour sortir Lionel? Je me rappelle une anecdote que Pep il avait sorti à l'époque et Messi... Il n'a pas laissé la main pour rien. Et son père, il va le voir à Pep. Au Pep, il va voir son père. Il a dit, Lionel, il ne me serre pas la main. Il n'aime pas sortir. Tu ne le sors plus jamais. Et alors, ça va être compliqué. Messi, pour l'équipe nationale, c'est Messi. Alors, ça ne va pas être facile à gérer. Et il faut compter sur l'intelligence de Lionel pour bien gérer ces moments, non?
Parce qu'en fait... Enfin, on n'imagine pas qu'il va jouer tous les matchs, très clairement, je pense, ou l'intégralité des matchs.
Il n'y a pas de débat en Argentine, pas sur sa présence dans les 26, évidemment, il est incontestable, mais sur sa forme du moment pour porter l'Argentine. Est-ce qu'on suspend l'avenir de la Bicéleste à la fin de Messi ou pas forcément aujourd'hui?
Le truc, c'est qu'il continue d'être décisif avec la sélection. Je veux dire, c'est pas comme Cristiano Ronaldo qui peut-être à une époque marquait que des tirs au but ou des pénaltys avec le Portugal. Il continue d'être un leader technique et même Renato, je pense que c'est peut-être même le plus important. Il est aussi un leader émotionnel dans cette équipe argentine. C'est-à-dire que quand il est présent, ça active un peu plus également les Rodrigo de Paul à côté, les Enzo Fernandez, les Dibu Martinez. C'est vrai qu'ils avaient envie de le faire pour lui il y a 4 ans. Beaucoup, les joueurs, hein, l'ont dit aussi. Et on l'a vu au côté des finales quand ils sont champions du monde. La plupart vont voir Messi. Là, le truc, c'est que est-ce que ce qui va aussi alimenter les joueurs argentins, est-ce que ça va être d'offrir une belle sortie à Messi pour sa dernière Coupe du Monde? Est-ce que l'envie, la motivation sera la même autour de ça?
Et la question est valable pour lui aussi. Il tenait absolument à gagner le dernier trophée qui lui échappait. Il l'a fait déjà. Est-ce que pour lui, c'est si important de le refaire 4 ans après pour éteindre tous les débats?
Mais Nico, quand tu vois ses larmes à la Copa América, à la finale, contre la Colombie, quand
il
sort. Mais en fait, c'est un gars qui, à 39 ans, a toujours autant envie de jouer. Tu regardes les matchs de l'Inter Miami, parce qu'il m'est arrivé d'en regarder quand même. C'est le mec qui, quand le corner est pas pour lui, mais pour l'autre équipe, alors que c'est pas ce qui était le cas, il continue de péter un plomb contre l'arbitre. Donc, c'est un garçon qui est toujours, on va dire, très passionné par son jeu et par les matchs qu'il joue.
Eh bien, on aura une légende motivée à fond sur la Coupe du Monde. On fait une pause rapide et on parle du 11 argentin. Vous allez voir, vous le connaissez déjà. Hein, c'est quasiment le même qu'en 2022. Ouais. Vos choix, le débat qu'on peut faire avec Renato sur certaines individualités, avec Georges également. Vous écoutez, vous regardez le podcast After Coupe du Monde spécial Argentine. L'After Coupe du Monde spécial, champion du monde en titre, l'Argentine peut-elle faire un back-to-back avec Jorge Quirino Chávez, avec Renato Sivelli en direct de Buenos Aires? Alors regardez, et ça c'est troublant, c'est la seule sélection dans ce cas, le 11 champion du monde lors de la finale face à l'équipe de France. Voici à quoi il ressemblait en 2022, il y a un peu moins de 4 ans désormais, avec Dibu Martinez, vous le savez, une charnière Otamendi, Romero, Molina à droite, Taliafico à gauche, McAllister, Fernandez, Enzo Fernandez, De Paul, le milieu à 3, Messi à droite, Di Maria à gauche, Julian Alvarez devant Di Maria, retraite internationale. Donc regarde en 2026 ce que ça donne. Est-ce que l'effectif a été chamboulé? Non, a priori, et ça on va en parler. Seul Nico Gonzalez, là aussi on peut en débattre, hein, prend la place de Di Maria, sinon...
Ou Thiago Almada peut-être.
Ou Thiago Almada, sinon on a les 10. Est-ce qu'il y a débat selon toi, Renato? Est-ce que quand tu vois ce 11, tu l'estimes capable de reproduire ce qu'il a fait en 2022? Je n'ai pas trop posé la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle de retrouver les mêmes qu'il y a 4 ans?
Écoute, si on a le temps, on va faire un par un. Je pense que Dibu Martinez, il a les mêmes, un meilleur, un niveau supérieur qu'en 2022.
Ok.
Moi, très similaire, parce que, rappelez que Molina, avant la Coupe du Monde, la moitié de l'Argentine ne le connaissait pas. Alors, imaginons en Europe. Et, alors, il a les mêmes niveaux, je pense qu'il se fait ses matchs. Romero, je pense qu'il a un meilleur niveau, parce que Et bon, pareil, il était un peu méconnu. Otamendi, c'est vrai qu'il arrive à la fin de sa carrière, il a joué tous les matchs, il n'a pas été blessé. C'est un interrogant. Et vraiment, je ne le sais pas, il a signé à River, je pense que c'est un très bon recrue pour River, mais on verra ce que ça donne en Coupe du Monde. Tagliafico, je ne sais pas. Et vous l'avez vu plus
c'est
que moi.
C'est pas sa meilleure saison à Lyon. Ouais.
Il fait ou il fait pas?
Il a fait moyen cette saison, quoi.
Ça va. Pareil. De Paul, je pense que il a fait un championnat du monde énorme, exceptionnel, mais après en club, il n'était pas terrible. Mm-hmm. Il était titulaire, remplaçant. Pardon, avec beaucoup de respect, comme je parle des joueurs, de ce type de joueurs, je ne vais pas me transformer en journaliste, s'il vous plaît, mais De Paul, je pense qu'il joue en championnat. George, tu disais que les Argentins ne regardent pas la MLS. La dernière fois, minute 30 de la première mi-temps, il y avait 5-4. Comme tu peux regarder, c'est pas du foot, ça. C'est compliqué de regarder ça. McAllister, il a eu quelques blessures ces dernières années. Et pour moi, ça a été un joueur clé en 2022. Julian Alvarez, il a un meilleur niveau. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des top numéro 9 du monde. Après, on verra si González va jouer ou pas. C'est vrai que c'est des caractéristiques similaires à celles que dit Maria. Ou il peut jouer aussi Thiago Almada. Et après, Lionel, il est Lionel. Moi, je pense qu'il devrait jouer 60 minutes par match. Mais en le connaissant, il va vouloir jouer les 90 minutes tous les matchs. Et alors, je pense que le problème, il est là, parce qu'il va vouloir gérer ses moments. Et parfois, tu ne peux pas. Mais comme tu dis, Georges, il a été décisif en équipe nationale. Il a été décisif. Et c'est une équipe championne du monde. C'est une équipe qui sait jouer les matchs difficiles. Et je ne sais pas combien de sélections ils savent jouer les matchs, les finales comme cette équipe d'Argentine.
Attends, précision, Dibu Martinez, genre, je vais me donner la parole quand même, blessé avec Aston Villa, fracture du doigt, il est bien sûr dans le groupe. Est-ce qu'il y a une inquiétude sur sa participation ou pas dès le début de la compétition?
A priori, il sera prêt pour le match face à l'Algérie. Voilà, c'est pas une blessure qui, on va dire, inquiète outre mesure pour l'instant cette équipe argentine et le staff de Lionel Scaloni. Donc, il sera là. Après, c'est vrai qu'en en fait, il y a quand même des niveaux de forme un petit peu disparates. Renato parlait de Romero. C'est vrai que peut-être qu'il est au niveau, au meilleur niveau qu'il y a quelques années, mais il n'a pas joué depuis mai, blessure au genou pour lui, donc on sait à quel point il est important dans cette défense, notamment peut-être pour compenser les courses d'Otamendi, donc voilà, ça va être important. Donc Julian Alvarez aussi n'est pas arrivé à 100%, il n'a pas joué les derniers matchs avec l'Atlético, c'est la même chose pour Molina. On sait que parmi certains joueurs appelés comme Nico Paz, pareil, il y a quelques petits soucis physiques, donc il y a quand même des inquiétudes à ce niveau-là, dans la prépa, dans les derniers matchs pour l'Argentine. Donc moi je voudrais dire deux choses sur le 11 répété. Il y a quand même une bonne chose, et c'est un argument qu'on entend souvent en Argentine, c'est nous on a la chance d'avoir une sélection qu'en fait qui marche comme un club. C'est-à-dire que les mecs se connaissent depuis des années, ils savent exactement comment jouer les uns avec les autres, ils sont tous potes, donc ils ont envie de jouer l'un pour l'autre. C'est pas le cas de beaucoup de sélections qui, parfois on le sait dans ces compétitions, Nico, ce qui compte le plus c'est pas forcément la tactique, mais plutôt l'énergie de groupe, le collectif qui arrive à avancer ensemble. Les Argentins ils ont ça, ils l'ont toujours.
Mais ils ont 4 ans de plus, hein, voilà.
Ils ont 4 ans de plus, et puis surtout Lionel Scaloni l'a répété en interview ces dernières semaines, il y a un joueur qui est irremplaçable, ce sont ses mots, c'est Di Maria. Di Maria n'a pas été remplacé. Nico Gonzalez n'est pas Di Maria. Thiago Almada n'est pas Di Maria. Di Maria, c'est un des, j'en parlais avec des confrères cette semaine, un des 5 meilleurs joueurs peut-être de l'histoire de l'Argentine. Donc Di Maria, qui continue de jouer avec Rosario Central aujourd'hui dans le championnat argentin, n'est plus là depuis la finale de la Copa América.
Il aurait pu prétendre, disait Renato tout à l'heure.
Ouais, mais il n'y a plus aujourd'hui ce joueur qui est capable de faire la différence. Nico Gonzalez, il a joué des matchs avec la sélection argentine, mais voilà, vous voyez, on est encore en train de douter sur sa présence ou pas dans le 11 avec Thiago Almada. On n'a pas parler de Lautaro Martinez. Hein.
Alors justement, on va en parler, Georges. Tu es dit certes, et justement, on va y venir d'abord Julian Alvarez, qui était là en 2022, qui a pris une importance prépondérante dans la conquête du titre mondial, titulaire numéro 9. Il le l'est dans l'esprit de Lionel Scaloni. Bien sûr, rien n'a changé pour lui en 4 ans. Renato, tu le disais, il a plus d'expérience. Lui, il était jeune, il a un peu moins, 26 ans. Il est au cœur de sa carrière, fleur de l'âge. Ses stats, regardez avec les Colchoneros. Hein, 49 matchs, il a beaucoup joué cette saison en Liga, en Ligue des Champions, demi-finaliste, 20 buts, 9 passes décisives. Son avenir est inconnu pour l'instant. Il a sûrement bougé. C'est aussi un enjeu personnel pour lui. Soit on l'apprendra avant la Coupe du Monde, soit on l'apprendra après. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, bref. Des énormes clubs sont sur lui. Comment tu juges désormais la place de Julian Alvarez? Est-ce qu'il peut devenir le vrai leader offensif de la sélection argentine et l'apporter quasiment aller tout seul, mais en grande partie, Renato, Julian?
Oui, je pense qu'il a été déjà. Et il a gagné sa place face à un très, très, très bon joueur, un buteur, un joueur qui gagne des titres toutes les années comme Lautaro Martinez. Julian, ce n'est pas seulement les 20 buts et les 9 passes décisives, c'est le travail défensif qui fait que c'est énorme. Et ça peut compenser un peu les manques d'effort parfois de Messi en vocation défensive. Di Maria, pardon Georges, c'est vrai qu'il a fait une très bonne finale de Coupe du Monde, mais juste avant, on ne savait pas s'il allait être titulaire ou pas. On est d'accord que c'est un mec qui a marqué l'histoire parce qu'il a marqué des buts dans tous les finales que l'Argentine a gagné dernièrement. C'est très important. Mais après, dans le jeu, Di Maria, il a pas fait la meilleure Coupe du Monde qu'il aurait pu faire. C'est vrai qu'il a été, je pense que vous vous souvenez bien, de la finale.
Bon. Il était très, très bien aidé par les choix de Deschamps, notamment. Il était blessé en plus. Alvarez ou Lautaro? Est-ce que c'est un débat, ça, Lautaro Martinez ou Alvarez en Argentine?
J'ai pas l'impression, parce que Julian Alvarez, il s'est quand même un petit peu imposé. Déjà, il s'est imposé sur la dernière Coupe du Monde, où Lautaro Martinez n'a pas été au niveau. On rappelle, hein, Alvarez, il n'était pas un titulaire du tout au début de la compétition. Hein. Donc, il s'est imposé au fur et à mesure, et aussi dans le cœur des Argentins, et aussi parce qu'il a marqué quand même un but en finale de la Coupe du Monde. Donc, tout de suite, ça le rend déterminant. Alvarez. Ensuite, il a également réussi lors de la dernière Copa América à s'imposer dans le 11, donc il était là également. Donc dans les grandes compétitions, ça prouve que Scaloni, les hommes en qui il a confiance, il met quand même Alvarez dans les premiers noms. Et puis il a essayé pendant la phase de qualif parfois de jouer avec les deux, notamment en l'absence de Messi. Ils ont également joué ensemble les trois, Lautaro, Julian et Messi. Franchement, on sent quand même que dans l'esprit de Scaloni, c'est pas la formule qu'il préfère, quoi. Voilà, c'est pas la formule qu'il préfère. Et on a l'impression que Lautaro, il a plus un rôle de super sub, en tout cas de joueur qui va rentrer peut-être pour apporter quelque chose. Bah regardez, il est rentré en finale de la Copa América. C'est lui qui marque le but. Hein. Mm-hmm. C'est lui qui apporte la Copa América à l'Argentine. Donc on verra quel rôle sera exactement celui de Lautaro Martinez. Il y a beaucoup de matchs dans cette Coupe du Monde. Hein. Il y en a plus. Hein.
Alors parmi les jeunes, moi j'adorerais voir Nico Paz émerger hein, sur ce mondial. Bien sûr, on va attendre. Non, ça va plus sur sa forme physique. Il était un peu touché au genou. Le petit Valentin Barco, tu regardes encore la Ligue 1, Renato, depuis l'Argentine. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un petit rôle à jouer ou on va attendre patiemment la Coupe du Monde 2030 pour lui?
Je pense qu'il va avoir, du mal à jouer parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs au milieu de terrain, mais l'Argentine a vocation offensive. Il n'y a pas un remplaçant pour Tagliafico comme arrière-gauche. N'oublions pas qu'Avoca, lui, il a été formé comme arrière-gauche. Moi, j'étais surpris de voir la liste et de ne pas avoir un latéral gauche pur. Parce que Medina, il peut jouer là, mais c'est plutôt un stopper ou un stopper avec ligne de 3. Et je pense que Barco, en cas d'absence de Tagliafico, il peut jouer comme arrière-gauche aussi.
Non mais c'est vrai que c'est un joueur, on va dire, qui excite, je pense, le
parce qu'un joueur mascotte. Hein.
Bon, c'est un joueur qui a joué à Boca, hein, mm-hmm. déjà, donc évidemment, il est dans le cœur des supporters de Boca. El Colo Barco, hein, c'est son surnom. El Colo, c'est le roux, en fait.
Ah, le roux, pardon.
El Colorado.
El Loco.
Voilà, exactement. Donc, il est déjà dans les cœurs des supporters à l'un des plus grands clubs de l'Argentine. Il avait joué avec les sélections des jeunes également. Il se faisait remarquer par son jeu. Voilà, ses performances, quand même, à Strasbourg, ont quand même été un peu suivies cette année parce qu'il a un petit peu crevé l'écran, comme Panicelli a une époque quand il est venu avec la sélection. Malheureusement, il s'est blessé. Sinon, je pense qu'il aurait eu des chances. Mais c'est vrai que dans la plupart des débats en Argentine depuis quelques semaines, quand on parle des possibles joueurs qui pourraient être ceux qu'ont été il y a 4 ans, Julian Alvarez et Enzo Fernandez.
Il en fait partie ?
En gros, on parle de Barco et de Nico Paz.
Bien aidé.
Voilà, on parle de Barco et de Nico Paz pour être ces deux joueurs qui pourraient, peut-être au fur et à mesure de la compétition, pourquoi pas se faire une place. Alors, je ne sais pas si comme titulaire, mais en tout cas avoir un rôle protagoniste dans la formation, comme on l'a été Enzo et Julian Alvarez, qui n'avait d'ailleurs pas marqué en finale de la Coupe du Monde, il avait marqué en demi-finale. Je me suis trompé tout à l'heure, mais en tout cas de d'éclater aux yeux du grand public.
Bon, voilà pour ce 11, pour ce groupe des 26. Je voulais qu'on finisse en parlant d'un homme qui est arrivé en intérimaire, c'était il y a 8 ans déjà, c'est bien sûr Lionel Scaloni. Incroyable, tout le monde disait bon, c'est pour quelques mois, il va faire la transition. Eh bien il est toujours là. 2018-2026, regardez le palmarès de cet homme qui est jeune encore, hein, 48 ans, hein, Renato, il est jeune. Scaloni, champion du monde 2022, double vainqueur Copa América 21 et 24, c'est quasiment, entre guillemets, quasiment un sans faute. Quel est son statut en Argentine à Lionel Scaloni désormais? De l'intérimaire à champion du monde, on l'a titré.
Ouais, je pense que c'est un des forces de cette équipe. Pas seulement lui, sinon tout le staff technique avec Pablo Aymar, Samuel, Achala. C'est des joueurs qui ont joué énormément de temps en équipe nationale, qui connaissent bien l'équipe nationale et qui s'arrivent très bien à s'entendre. Scaloni, je pense que Pablo Aymar, il prend beaucoup de décisions aussi. Et Scaloni, il est à l'écoute. À force, je pense, de travail et de résultats, et ils ont gagné le respect des joueurs, que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de gérer les stars qu'il y a en équipe nationale et l'opinion publique, il adore. Je pense qu'il adore. Je pense qu'aussi, ça sera sa dernière Coupe du Monde. Ah. Et il s'enflamme jamais, jamais. Il est toujours le pied par terre. Il a toujours le pied par terre. Mais bon, Georges, excuse-moi, je te corrige un peu quand tu parlais de Boca, le deuxième plus grand.
Ah, j'ai pas dit le plus grand, j'ai pas dit que c'était le plus grand d'avant River.
Sinon, moi, pour laisser River, pour sais,
non, mais pour aller sur Scaloni.
Sur Scaloni.
Sur Scaloni, comme disait Renato, je parlais avec des confrères il y a quelques jours. Il me disait, tu sais, ici, c'est une espèce de figure intouchable, c'est une espèce de totem national. C'est un peu notre San Martín ou Belgrano, qui sont un peu les héros de la libération l'Argentine.
Ah, carrément, l'Argentine. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Mais non, mais
on convoque l'histoire de la libération.
C'est-à-dire une espèce de figure tutélaire qui rassemble un petit peu tout le monde dans un pays qui, on va pas se cacher, est très fracturé aussi et très polarisé depuis quelques années. Scaloni était cette espèce de figure rassembleur. Je pense que ce qu'a dit Renato, c'est le plus important. C'est ce qui caractérise ce staff, c'est l'humilité.
Ouais, la
à aucun moment tu les as entendus s'enflammer depuis qu'ils ont été champions du monde, d'avoir la grosse tête ou se croire avec une vie de star. Tu vois, Scaloni continue d'aller dans son petit village de Purrato dans les terres intérieures près de Rosario, l'endroit où tu es au milieu des champs de soja. Il continue de boire son maté assis sur le trottoir avec sa famille qui est à côté. Les gens viennent lui demander un autographe et il continue d'aller voir les gamins de Newell's Old Boys là où il a été formé de la même façon que quand il était gamin. C'est quelqu'un qui sent profondément l'Argentine et toute l'Argentine, je pense, l'importance que tout le monde se sente représenté par cette équipe. Voilà, il y a quelques jours, la question lui a été posée. Qu'est-ce que vous avez à dire aux supporters argentins? Il a dit ce qu'il dit depuis 4 ans. Je peux assurer aux Argentins qu'ils vont se sentir représentés par cette équipe. Toujours. On va tout donner pour ce maillot. Et ça va être le plus important. Et le staff est important, tu le disais, avec Aymar, avec Samuel. C'est un staff que, déjà, certains joueurs ont connu. Messi a joué avec eux, il faut le rappeler. Notamment sur sa première Coupe du Monde en
Walter
Allemagne.
Samuel, Pablo Aymar.
Et c'est un staff qui touche les joueurs. C'est un staff qui est dans l'émotion, qui n'a pas peur de pleurer. On l'a vu il y a quelques jours.
On se souvient de l'émotivité.
Même dans les phrases avant la finale de la Coupe du Monde, ils se sont mis tous à pleurer devant leurs joueurs pour les motiver avant de jouer contre la France.
Ah, ils sont forcés à pleurer.
Non.
Ah, d'accord, ok, ça marche comme ça.
Mais pris par l'émotion, en fait, ils ont emporté par leur émotion parce qu'on a souvent entendu est-ce que l'émotion, ça va pas les déborder, ça va pas être quelque chose de négatif. C'est pas le cas pour.
L'Argentin n'est pas brésilien. Voilà, c'est ce que tu veux dire peut-être.
C'est toi qui l'as dit.
On s'est régalé. Rendez-vous 17 juin pour ce match passionnant. Argentine-Algérie. Ce sera à 3h du matin et je crois que Renato, il sera pas trop loin de nous parfois pendant la Coupe du Monde. On lui passera 2-3 coups de fil pour évoquer les matchs de la sélection. Merci Renato, excellent mercato à toi. Je sais pas si c'est pas du mercato avec Defensa et Rusticia à ton club. Et puis on espère venir te revoir bientôt à Buenos Aires. Le meilleur à toi et ta nouveau rôle de directeur sportif. Bon. Merci Georges. On s'est régalé. Merci à toute l'équipe également. Bonne Coupe du Monde. Bye bye.
RMC After Coupe du Monde, les 48 équipes.